Étienne Bonneau de Condillac, Traité des sensations, partie 2, du toucher ou du seul sens qui juge par lui-même des objets extérieurs. Chapitre 6. De la manière dont un homme borné au sens du toucher commence à découvrir l'espace. Le plaisir règle les mouvements de la statue. Puisque les désirs consistent dans l'effort que les parties du corps font de concert avec les facultés de l'âme, notre statue ne peut désirer une sensation qu'au même instant elle ne se meuve pour chercher l'objet qui peut la lui procurer. Elle sera donc déterminée à se mouvoir toutes les fois qu'elle se rappellera les sensations agréables dont le mouvement lui a donné la jouissance. D'abord, elle s'agite au hasard, et cette agitation est elle-même un sentiment dont elle jouit avec plaisir, car elle en sent mieux son existence. Si sa main rencontre ensuite un objet qui fasse sur elle une impression agréable de chaleur ou de fraîcheur, aussitôt tous ses mouvements sont suspendus et elle se livre tout entière à ce nouveau sentiment. Plus il lui paraît agréable, plus elle y fixe son attention. Elle voudrait même toucher de toutes les parties de son corps l'objet qui l'occasionne, et ce désir reproduit en elle des mouvements qui, au lieu de se faire au hasard, tendent tous à lui procurer la jouissance la plus complète. Cependant, cet objet perd son degré de chaleur ou de fraîcheur, et la jouissance cesse d'en être agréable. Alors la statue se souvient des premiers mouvements qui lui ont plu. Elle les désire, et s'agitant une seconde fois, sans autre dessein que de s'agiter, elle change peu à peu de place et touche de nouveaux corps. Un des premiers objets de sa surprise, c'est sans doute l'espace qu'elle découvre à chaque instant autour d'elle. Il lui semble qu'elle le tire du sein de son être, que les objets ne s'étendent sous ses mains qu'aux dépens de son propre corps, et plus elle se compare avec l'espace qui l'environne, plus elle sent ses bornes se resserrer à chaque fois qu'elle découvre un nouvel espace et touche de nouveaux objets, elle suspend ses mouvements ou les règle pour mieux jouir des sensations qui lui plaisent, et elle recommence à se mouvoir pour le seul plaisir de se mouvoir, aussitôt qu'elle cesse de les trouver agréables. Lorsque par ce moyen elle a découvert un certain espace et qu'elle a éprouvé un certain nombre de sensations, elle se rappelle au moins confusément tout ce dont elle a joui. Se souvenant d'un côté qu'elle le doit à ses mouvements, sentant de l'autre que ses mouvements sont à sa disposition, elle désire de parcourir encore cet espace et de se procurer les mêmes sensations qu'elle a appris à connaître. Elle ne se meut donc plus pour le seul plaisir de se mouvoir. Mais comme elle ne passe pas toujours par les mêmes endroits, elle éprouve de temps en temps des sentiments qui lui étaient tout à fait inconnus. À mesure qu'elle en fait l'expérience, elle juge que ses mouvements sont propres à lui procurer de nouveaux plaisirs, et cet espoir devient le principe qui la meut. Elle devient capable de curiosité. Elle commence donc à juger qu'il y a des découvertes à faire pour elle, elle apprend que les mouvements qui sont à sa disposition lui donnent le moyen d'y réussir, et elle devient capable de curiosité. En effet, la curiosité n'est que le désir de quelque chose de nouveau, et ce désir ne peut naître que lorsque l'on a déjà fait des découvertes et qu'on croit avoir des moyens pour en faire encore. Il est vrai qu'on peut se tromper sur les moyens. Devenu curieux par habitude, on s'occupe souvent à des recherches où il est impossible de faire des progrès. Mais c'est une méprise où l'on ne serait pas tombé si dans d'autres occasions on n'aurait pas eu des succès plus favorables. Elle ne l'était pas avec les autres sens. Il n'était peut-être pas impossible que lorsque notre statue recevait successivement les autres sens, l'habitude de passer par des manières d'être toujours différentes ne lui en fît soupçonner d'autres dont elle pourrait encore jouir. Mais ne sachant pas comment elle devait lui arriver, et n'ayant aucun moyen pour en obtenir la jouissance, elle ne pouvait pas s'occuper à découvrir en elle une nouvelle manière d'être. Il était bien plus naturel qu'elle tournât tous ses désirs vers les sentiments agréables qu'elle connaissait. C'est pourquoi je ne lui ai point supposé de curiosité. La curiosité est un des principaux motifs de ses actions. On sent que la curiosité devient pour elle un besoin qui la fera continuellement passer d'un lieu dans un autre. Ce sera souvent l'unique mobile de ses actions. Sur quoi, il faut remarquer que je ne m'écarte point de ce que j'ai établi, lorsque j'ai dit que le plaisir et la douleur sont la seule cause du développement de ses facultés. Car elle n'est curieuse que dans l'espérance de se procurer les sentiments agréables ou d'en éviter qui lui déplaisent. Ainsi, ce nouveau principe est une conséquence du premier et le confirme. La douleur suspend le désir qu'elle a de se mouvoir. Dans les commencements, elle ne fait que se traîner. Elle va ensuite sur ses pieds et sur ses mains, et rencontrant enfin une élévation, elle est curieuse de découvrir ce qui est au-dessus d'elle, et elle se trouve, comme par hasard, sur ses pieds. Elle chancelle, elle marche, en s'appuyant sur tout ce qui est propre à la soutenir. Elle tombe, se heurte, et ressent de la douleur. Elle n'ose plus se soulever, elle n'ose presque plus changer de place. La crainte de la douleur balance l'espérance du plaisir. Si cependant elle n'a point encore été blessée par le corps sur lequel elle a porté la main, elle continuera d'étendre les bras sans défiance. Mais à la première piqûre, cette confiance l'abandonnera, et elle demeurera immobile. Ce désir renaît accompagné de crainte. Peu à peu, sa douleur se dissipe, et le souvenir, qui lui en reste, trop faible pour contenir le désir de se mouvoir, est assez fort pour la faire mouvoir avec crainte. Ainsi, il ne faut que disposer des objets qui l'environnent, et nous lui rendrons sa première sécurité par des plaisirs capables d'effacer jusqu'au souvenir de sa douleur, ou nous renouvellerons sa défiance par des sentiments douloureux. Si nous laissons les choses à leur cours naturel, les accidents pourront être si fréquents que la défiance ne la quittera plus. Circonstance où la crainte l'aurait entièrement étouffée. Si même au premier instant, nous l'avions placée dans un lieu où elle n'eût pu se mouvoir sans s'exposer à des douleurs vives, le mouvement aurait cessé d'être un plaisir pour elle. Elle fut demeurée immobile et ne se fut jamais élevée à aucune connaissance des objets extérieurs. Crainte qui donne occasion à une sorte d'industrie. Mais si nous veillons sur elle pour qu'elle n'éprouve que de légères douleurs et que ces douleurs soient même encore assez rares, alors elle désirera de se mouvoir et ce désir sera seulement accompagné de temps en temps de quelque défiance de ses mouvements. Elle ne sera donc plus dans le cas de demeurer pour toujours immobile. Si elle craint un changement de situation, elle le désire toutes les fois qu'il peut la soulager, et elle obéit tour à tour à ses deux sentiments. De là naîtra une sorte d'industrie, c'est-à-dire l'art de régler ses mouvements avec précaution et de faire usage des objets qu'elle découvrira pouvoir servir à prévenir les accidents auxquels elle est exposée. Le même hasard qui lui fera saisir un bâton lui apprendra peu à peu qu'il peut l'aider à se soutenir, à juger des corps contre lesquels elle pourrait se heurter et à connaître les endroits où elle peut porter le pied en toute assurance.